L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bon week-end et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique. Nous sommes ensemble durant 2 heures, comme chaque samedi, 16h-18h, exclusivement sur BFM Business Radio. Et pendant ces 2 heures, on cause bien évidemment nouvelles technologies et économie numérique. Avec, autour de cette table, Lila Megrawa qui est là, Aurore Géraud, nous avons Antoine Cyr aussi, puis du côté de San Francisco, Romain Chaperon est là aussi. Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, au menu de cet atelier numérique, dans un instant, Romain qui va nous donner des news toutes fraîches de la Silicon Valley. On va aussi tout à l'heure retrouver notre dico facétieux du net avec Jean de Chambure, le cybergadget d'Antoine Cyr, Antoine qu'on retrouvera en toute fin d'émission aussi, mon cher Antoine, pour le crash test de cette semaine.
Et oui.
Merci.
Bon, non.
À bientôt, Antoine.
Alors, la raison de mon quasi-mutisme,
oui, c'est vrai,
c'est qu'en fait, le crash test va être consacré aux îles abandonnées.
Aux îles abandonnées?
Et oui.
Ça fait peur, dites-moi.
Mais pas du tout.
Ah bon?
Il y a des îles tout abandonnées à fait intéressantes.
Qui sont,
et vous verrez, il y a même des îles abandonnées qui sont très entourées.
C'est vrai?
Oui.
Ah bon? Bah oui. Écoutez, on verra ça tout à l'heure. Les îles abandonnées, le crash test d'Antoine, notre focus start-up tout à l'heure, notre enquête de l'atelier. On va parler marketing affinitaire en compagnie de Jean de Chambure et de nos invités. La web stratégie digitale, ça va vous faire plaisir, Antoine, du groupe Chantel. Ça vous va?
Oui, mais hein, je pense que je suis pas le seul à qui ça fait plaisir.
Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'image. Donc, voilà,
oui,
on écoutera tranquillement.
Je suis très content, mais mon cher François, vous avez l'air particulièrement réjoui aussi
écoutez,
en annonçant ça.
Non, mais ça me fait
je n'ai pas le monopole.
Vous savez pourquoi? Ça me fait plaisir de vous voir content.
Voilà, mais je n'ai pas le monopole du cœur.
On évoquera l'intelligence artificielle tout à l'heure et les robots qui envahissent le secteur du tourisme. Et oui, demain, nous aurons une hôtesse dans l'hôtel qui vous accueillera et peut-être même un robot qui fera le ménage. On va en parler tout à l'heure avec Aurore Géraud et nos invités. Notre World Tour, direction l'Inde. La rédaction de 01net.com et le crash test d'Antoine. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On commence par l'actu vu par l'équipe de l'atelier et on débute bien évidemment par Aurore Géraud.
Oui, alors moi je vais vous parler de lolcats cette semaine. De lolcats et des répercussions du visionnage de vidéos de chats sur la santé et la productivité.
Donc, c'est vrai qu'on n'est pas hyper productif quand on regarde une vidéo d'un chien qui fait du skate.
Détrompez-vous. Des chercheurs de l'université de l'Indiana ont prouvé que regarder ce genre de vidéo, ça boostait l'énergie et ça rendait même plus positif, voire plus productif. En fait, ils ont simplement demandé à 7000 participants de visionner des vidéos et ont recueilli ensuite leurs sentiments.
D'accord.
Et ils ont constaté que le plaisir éprouvé après avoir vu de telles vidéos passionnantes enlevait en fait toute la culpabilité qu'ils pouvaient avoir en fait de ne pas travailler tout simplement plutôt que de regarder ces genres de vidéos.
Elle est super votre étude.
D'ailleurs on demandait.
Enfin c'est quand même. Il y a des études si vous voulez. On se dit bon voilà ça sert à rien etc. Mais celle-là.
Non mais
c'est une étude capitale.
Il y a des explications quand même quand on voit on se dit les types autrefois avec les moyens rudimentaires dont ils disposaient ils ont fait le Pont Neuf, la cathédrale Notre-Dame de Paris et on se demande toujours comment ils ont fait. Et en fait, ils regardaient des vidéos de lolcat.
Et oui, en 4G.
En 4G. Et c'est ça qui leur a donné la force de déplacer ces blocs de pierre. Voilà, derrière pyramide de Khéphren, derrière la pyramide de Khéops, derrière la pyramide de Mykérinos. Un seul secret, les vidéos de lolcat.
Oh, je suis persuadé que vous plaisantez que vous en regardez de temps en temps, Antoine.
Des lolcat?
Ouais.
Alors là, franchement, des lolcat peu quand même.
Non. Vous, c'est plutôt les actrices.
Les lol voitures.
Les lol voitures.
Voilà, mais les lolcat. Mais j'aime bien les chats. Hein,
oui.
Les lolcat, non.
Très bien. on enchaîne avec San Francisco et Romain.
Oui, François. Alors, l'été approche, hein, il fait beau, les vacances se dessinent à l'horizon.
C'est vrai.
Du coup, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un galet. Mais pas n'importe quel galet, puisqu'il s'agit d'un galet connecté.
Ah.
Alors, ce galet, il fait. Oui, tout à fait. Il fait la taille d'une clé USB, vous pouvez le clipser à votre ceinture, et puisqu'il est connecté via Bluetooth à votre smartphone, il vous donne des informations pour réduire votre stress et améliorer votre productivité. Alors comment il fait? Tout simplement en analysant en temps réel votre respiration. Alors c'est Spire, une société californienne qui a développé cette technologie. Ils sont basés ici à San Francisco, tout près de l'atelier. Et nous, on le teste depuis une semaine, et je dois avouer que c'est plutôt intéressant. Déjà, l'objet en lui-même, il n'est pas intrusif. Voilà, il est comment, assez discret, il s'oublie rapidement autour de votre ceinture. Mm-hmm. Mais le plus intéressant, c'est il se situe dans l'application en elle-même. Sur le premier écran de cette appli, vous voyez en temps réel une courbe qui représente votre respiration. Et en dessous de cette courbe-là, votre journée, elle est résumée en quatre axes. Il y a les moments où vous êtes en activité, c'est-à-dire quand vous marchez. Il y a les moments de focus où vous êtes concentré, les moments où vous êtes calme et les moments où vous êtes stressé. Et parfois, ce galet, il vibre, il vous envoie une petite notification pour vous indiquer, par exemple, que vous êtes sédentaire depuis plus d'une heure. Il serait peut-être temps de faire un petit peu d'exercice. Ah. Ou alors que vous avez un pic de stress et du coup, il faut vous détendre. Du coup, Spire, ça devient un petit peu votre coach personnel. Chaque jour, vous avez trois objectifs. Moi, en ce qui me concerne, je dois marcher 10 000 pas par jour, je dois être calme pendant une heure et je dois rester concentré pendant deux heures. Et en fait, sur l'application, vous avez des jauges sous forme de pétales. Et ces jauges-là, elles se remplissent au fur et à mesure de la journée pour vous indiquer où vous en êtes de vos objectifs. Ah oui. Et vous donnent des conseils pour les améliorer.
D'accord. Et ça sort bientôt ou pas, ça?
Comment?
Ça sort bientôt, Romain?
Oui, il est déjà disponible à la vente sur le store d'Amazon aux US.
D'accord.
Et ils le vendent également via leur propre site. Alors, la start-up s'appelle Spire. C'est pas les seuls. Hein. C'est vrai que c'est assez pertinent, mais reste à savoir si les usages vont se développer. Hein. Vous le savez, un bracelet, montre, il y a de plus en plus d'objets connectés sur le marché. Cette année, selon IDC, il y a déjà 11 millions d'objets connectés qui ont été livrés sur le premier semestre. Et très peu, pour l'instant, de ces objets réussissent à tirer leur épingle du jeu. Il y a une étude d'Endeavor qui présente que plus d'un tiers des possesseurs d'objets connectés abandonnent leur device 6 mois après utilisation. Alors voilà, Spire, les débuts sont très prometteurs, mais on va continuer à le tester et on vous en reparle à la rentrée.
Merci beaucoup Romain, c'est vrai que la plupart des objets connectés, malheureusement, terminent dans un tiroir et voilà, c'est un peu dommage. Antoine.
Alors on a beaucoup parlé de stress.
Oui.
Et on a aussi beaucoup parlé de bac.
Ces derniers temps. Ça, c'est sûr.
Et évidemment, stress, bac, y a un lien.
Oui.
Voilà. Et évidemment, certains élèves, dans ces cas-là, pour éviter le stress, mais à mon avis, ils sont également très stressés quand même, cherchent le refuge dans l'anti-sèche.
Oh, mais non, Antoine.
Ça existe, ça a existé, ça a eu existé. Alors il y avait des tas d'antisèches.
Vous voulez vous confier aujourd'hui à l'antenne de BFM Business?
Écoutez, je vais vous faire un aveu. Le seul examen de ma vie que j'ai passé en mettant un doigt, si je puis dire, dans l'antisèche, je l'ai raté.
C'est vrai?
Oui.
Oh, mon Dieu.
Alors de peu, hein.
Ah ouais.
Je l'ai raté.
Vous l'avez raté quand même.
Oui.
Ah ben bravo.
Voilà.
Et bon. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez là pour nous?
Donc. Les antisèches, on les connaît, etc. Et évidemment, il fallait que ça arrive. Les objets connectés sont en train de transformer le concept d'antisèche.
Ah oui.
Et plus
au grand désespoir des examinateurs qui surveillent.
Et plus précisément, l'objet connecté qui transforme le paysage mondial de l'antisèche,
le PMA,
c'est la montre connectée. Parce que, évidemment, la montre connectée, c'est assez facile.
Et oui, on a un petit écran, on peut avoir des infos, etc. Voilà.
Et donc, figurez-vous que, en mai dernier, donc c'est récent, on a enregistré le premier cas, répertorié en tout cas, de triche à un examen avec une montre connectée.
Oh.
Le délit a été commis dans une école de commerce suisse. En plus, quand on connaît le goût de nos amis suisses,
oui.
Pour la rigueur.
Ah, bien sûr, la rigueur.
Pour le sérieux. Voilà. Et là, l'élève s'est fait attraper parce que le surveillant trouvait qu'il regardait un peu trop souvent sa montre. Alors, il aurait pu dire, écoutez, on est en Suisse,
ouais,
c'est
l'industrie
nationale.
Exactement.
Il faut regarder souvent sa montre,
voilà.
Etc. Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché.
Non. Voilà. Alors en Australie, il y a des universités qui ont, comme celle de New South Wales, qui ont déjà décidé de bannir les montres connectées. Elles ont changé leur règlement exprès pour interdire ces montres. Et au Royaume-Uni aussi, en fait, il y a déjà des universités britanniques qui ont banni l'objet. Mais le plus spectaculaire, c'est en Chine, où la crainte de la triche est telle que un drone a été déployé dans une école.
C'est vrai.
Et donc le drone se balade,
surveille.
Et localise.
Non.
Tous les petits animaux, les petits objets émettant un signal radio. Voilà.
Les petits animaux. Ah bah bravo Antoine, tiens. Ah là là. Très bien. C'est pas mal du tout ça comme info. Alors vous savez quoi? C'est la fête de la musique demain. Donc on va tous s'éclater. Mais le ministère de la Culture a choisi de mettre le digital à l'honneur pour cette édition. Et Lila Megraou a rencontré Ibrahim Malouf qui ouvre la fête de la musique. Lila, racontez-nous tout.
Oui, François. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ibrahim Malouf. Ibrahim, vous êtes trompettiste, compositeur de cinéma. On a pu vous entendre récemment dans le film Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper. Vous dopez les ventes jazz avec vos derniers albums. On vous retrouve demain pour la fête de la musique. Vous allez lancer à Paris la fête dans les jardins du Palais Royal pour un concert au dispositif un peu particulier. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Mais il va se passer, enfin, au moment où nous on va jouer donc le soir, il va se passer deux choses. En première partie, j'invite toutes les personnes qui ont envie de venir faire la fête avec nous, avec leurs instruments de musique, avec peu importe l'âge, peu importe le niveau, peu importe le style, peu importe tout, même sans instrument, vous pouvez venir, que vous soyez professionnel ou amateur ou débutant. Voilà, tout le monde est invité pour faire une improvisation géante, comme j'ai fait il y a quelques mois au 104 à l'occasion du salon de la musique, Musicora. Et donc là, en fait, c'est comme une version 2 de cette improvisation géante où on va essayer d'aller encore plus loin, essayer d'improviser plus, de jouer plus. Et puis après cette première partie, donc pour celle-ci, je donne rendez-vous aux gens à 19h, 19h30, parce qu'il y a quand même le dispositif de sécurité. Il faut faire attention quand même avec comment ils appellent ça, Vigipirate, etc. Et puis en deuxième partie, donc à partir de 20h45 à peu près, on attaquera le concert de Illusion, qui est mon dernier album. Et qu'on avait décidé d'arrêter de tourner il y a quelques mois déjà, maintenant, parce que je prépare deux albums pour la rentrée. Mais puis, pour l'occasion, pour la fête de la musique, on a décidé de le remettre sur scène. Voilà.
Vous avez également lancé plus ou moins cette idée du jam aussi en ligne avec la plateforme WhoJam. Le principe, c'était quoi ? L'idée, c'était quoi ?
En fait, c'est pas moi qui ai lancé ça. Je pense que c'est surtout en ce moment, moi je participe à ça. En fait, je participe à cet élan d'improvisation, de jam, etc. Parce que c'est quelque chose d'utile aujourd'hui. C'est hyper important qu'on puisse se refédérer sur des valeurs artistiques et pas que sur des valeurs identitaires ou des valeurs religieuses ou autres ou sociales. Là, on a l'occasion, grâce à la musique, de réussir à se fédérer, à mutualiser nos forces pour faire des belles choses. Et non, là, c'est Stan Amselem qui a eu l'idée de ce site WhoJam et qui m'a donc convié à l'occasion de la fête de la musique à venir faire une jam pour ce site. Et donc, évidemment, je l'ai fait avec grand plaisir. Et du coup, on unit un peu nos forces aussi pour motiver tout le monde. Voilà, on est une grande famille des amoureux de la musique et on a envie de fédérer les gens à ça. Et donc, voilà, toutes les initiatives sont bonnes. Et je suis ravi de faire cette jam. Il faut aller sur WhoJam et vous verrez, on a fait donc il y a, je crois, toutes les semaines, ils en diffusent une différente à laquelle vous pouvez vous associer aussi et ajouter un jam et donc participer à une jam avec plein d'autres gens venus de partout dans le monde.
Est-ce que vous pourriez imaginer l'utiliser aussi dans votre processus de création, ce type d'outil créé en ligne? Vous avez encore préféré, c'est un vilain mot, mais la présence, le présentiel.
Tout est bon en fait. Y a rien de mieux que l'autre. Après, par habitude, mais parce que moi je trouve que ce qui est chouette dans la musique, c'est de le partager tous ensemble. Je dirais que c'est le WhoJam, c'est une manière de pallier à la distance, de pallier au temps, etc. Mais quand on peut être tous ensemble et jamais tous ensemble, évidemment, moi je trouve ça encore mieux. Mais si on n'a pas la possibilité de le faire, quand on habite loin, qu'on habite à Helsinki ou je ne sais où, et on a envie de jammer avec des gens qui viennent d'un autre pays du monde, etc. Donc, heureusement qu'il y a des sites comme celui-ci.
Ibrahim Malouf, merci beaucoup. Venez improviser au jardin du Palais Royal demain 19h. Alors François, on continue un peu notre découverte du dispositif digital mis en place pour la fête de la musique avec Stan Amselem. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes CEO et cofondateur de la start-up WhoJam. On vient juste d'en parler avec Ibrahim Malouf. Est-ce que vous pourriez revenir succinctement sur le principe ?
Alors, WhoJam, c'est un site qui permet à n'importe quel musicien dans le monde, professionnel ou amateur, de faire de la musique avec n'importe qui d'autre, où qu'il soit dans le monde. Et comment on fait ça ? On permet aux musiciens d'enregistrer des vidéos musicales à plusieurs, en s'enregistrant les uns par-dessus les autres, les uns après les autres. Donc un batteur va s'enregistrer devant son ordinateur et publier sa vidéo de batterie, puis un guitariste va tomber dessus, ou il aura été invité peut-être par le batteur, il va s'enregistrer par-dessus sur WooJam, et il republie la vidéo. Et du coup, la vidéo devient en fait deux vidéos qui sont collées ensemble. Et ainsi de suite, voilà, un bassiste qui va se rajouter, un trompettiste qui vient du Brésil, etc., etc. Et quand vous publiez une vidéo, la vidéo peut se démultiplier à l'infini si vous choisissez de ne garder que le premier ou que les deux premiers pour vous-même rajouter votre piste et jouer avec n'importe quel musicien dans le monde.
Donc la fête de la musique, c'est demain. Qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qu'on devrait retrouver après la fête sur WooJam?
Alors, pour la fête de la musique, on a eu le plaisir de faire un jam avec Ibrahim Maalouf, donc, qui nous a fait l'honneur d'enregistrer plusieurs jams sur la plateforme WooJam pour permettre à n'importe qui de s'enregistrer, de jammer avec Ibrahim. Donc là, il y a les vidéos qui sont disponibles sur le site, qui continueront d'être disponibles après la fête de la musique, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de fin à un jam qui est réalisé sur WooJam. Le jour de la fête de la musique, donc on sera évidemment dans les jardins du Palais Royal pour la grande improvisation d'Ibrahim Maalouf. Il y aura quelques surprises sur place. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à venir. Vous allez voir, c'est vachement sympa.
D'ailleurs, je rappelle, 19h demain. Dimanche 21 dans les jardins du Palais Royal. Stan Ancelem, merci. Je rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de la start-up WooJam. Merci.
Lila Megrawa, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier sur BFM Business. 10 co-facétieux du net et cybergadget à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique. Merci d'être avec nous comme chaque week-end pour votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies. Tout de suite, on va retrouver notre dico facétieux du net avec Jean de Chambure. Et puis juste après, ce seront les gadgetos tant attendus d'Antoine Cyr. Mon cher Jean, cette semaine, votre dico s'arrête sur la lettre
D. Sur la lettre D.
D comme de Chambure d'ailleurs.
Oui, comme de Chambure. Alors la lettre D... Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe à la lettre D?
La lettre D, en fait...
Merci Jean, c'était sympa. Merci beaucoup. Antoine, non, ça, oui. Vous aviez donc une gadgeto.
Oui, alors moi je vais vous parler d'un sac à dos. Pour... Alors...
Non, la lettre D, pardonnez-moi cette petite attente.
Non mais on a vu que c'était... Mais parce que vous êtes théâtral en plus Jean. C'est le paradoxe. Tout ça c'est calculé. C'est calculé.
C'est le paradoxe du dé. Pourquoi le paradoxe du dé? C'est le paradoxe de la disruption. Parce qu'on n'en peut plus cette disruption. On nous dit qu'il faut être disruptif tout le temps. C'est la rupture. Bon, donc, le disruption, on entend énormément parler de ça.
Ah oui. Bon, dans le marketing, ça disrupte à tout va.
Dès qu'on sort, voilà, il faut disrupter. Très bien. Alors c'est intéressant, mais en même temps, c'est intéressant de comprendre où est la fameuse disruption, la fameuse rupture. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est vraiment du côté des technologies ou est-ce qu'elle est plutôt du côté des usages? Et en fait, il y a quelqu'un qui, il n'y a pas très longtemps, je rends hommage à Xavier Duportet, qui est le créateur de Hello Tomorrow, qui m'a dit quelque chose, qui m'a fait une espèce de révélation sur le numérique. Au fond, la disruption dans le numérique, ce sont les usages, c'est pas les technologies, parce que la technologie, il n'y en a pratiquement qu'une seule. Pareil, il n'y a pratiquement qu'une seule technologie. Et c'est la multiplicité des usages. Ça, c'est ça, la disruption. En revanche, l'informatique, c'est plein de langages, plein de technologies, et finalement des usages assez monolithiques et assez simples. Donc, disruption dans les usages, c'est le vrai sujet. Quand on creuse un peu, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, un professeur à Harvard émérite sur ce sujet-là, qui s'appelle Clayton Christensen. Excusez-moi si mon accent...
Non, mais genre, danois.
Danois, oui, il a l'air plutôt danois, Christensen, mais c'est peut-être américain. En tout cas, il est extrêmement intéressant parce qu'il explique, au fond, que cette fameuse innovation disruptive, c'est vraiment... exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On en a un petit peu parlé il y a pas si longtemps sur cette espèce d'ubérisation de l'économie, sur le fait que tout va venir des personnes, tout va venir des services et qu'on va progressivement faire émerger comme ça du travail par les usages à travers une technologie extrêmement simple qui est voilà. Bien entendu, il y a l'internet. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ça, qui disent mais c'est la fin des grandes innovations, c'est la fin du long terme, c'est la fin de l'industrie, vous ne comprenez pas. On verra bien, il y a une dialectique autour de ça. Je trouve ça très très intéressant, en tout cas, de creuser la, je vous invite à le faire, la pensée de Clayton Christensen, puisqu'il a une vision, une explication sur ce que c'est que cette disruption. Il parle de Schumpeter, évidemment, et il parle de lui, sa propre vision, qui est de dire, au fond, c'est pas la destruction, la destruction créatrice, c'est la destruction et on verra un peu là, après la suite, quoi. Mais bon.
Je crois que on n'a jamais entendu autant ce mot disruption en 3 minutes.
Oui. Hein.
Là, franchement. Là, je crois. Écoutez, on va s'auto-disrupter.
La vraie disruption, ce serait qu'on ne parle plus de disruption.
Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. En gros. Merci, Jean.
Voilà. Il faut qu'on arrête avec ce mot.
Antoine.
Alors moi, je vais vous parler d'une innovation qui apporte une véritable disruption.
Ben oui, forcément. Là, on vous a tendu la perche.
Oui, hein, oui, voilà.
Voilà, là, c'était...
voilà. Donc, alors, il y a donc une disruption. Bon, allez, c'est un sac à dos.
Un sac à dos?
Oui, pour cycliste.
D'accord.
Avec ça, jusque-là, moi, ça m'arrive de faire du vélo avec un sac à dos. Ça permet d'emporter ben, justement une bouteille d'eau, etc. Oui. Sur un vélo de course, par exemple.
Une pompe.
Il y a un endroit normalement pour l'accrocher sur le vélo. Ouais.
C'est vrai.
Enfin, dans le vélo, oui, on peut dire dans le vélo, mais bon.
D'accord.
Bon, enfin bref. Donc c'est un
sac. Je vous imagine en sac à dos sur votre vélo, là. Vous devez être tout mignon.
Oui, tout à fait.
Non, c'est vrai.
C'est sportif.
Avec votre petit sandwich.
Oui, voilà. Oui. Donc c'est un sac à dos pour cyclistes qui intègre des clignotants. Parce que effectivement, alors c'est vrai notamment quand vous êtes sur un vélo de course, c'est pas toujours évident de lever le bras, de tendre le bras, etc. Quand vous penchez un peu là et tout, c'est pas moi je préfère garder les mains sur le guidon, notamment dans les virages en ligne droite. Normalement, on arrive à peu près à s'en passer, mais dans les virages,
ouais, c'est pas facile de lever les mains dans le virage.
Après, il y a des gens très adroits, mais tout le monde n'est pas voilà.
Donc, le sac à dos a des clignots.
Donc c'est une société qui s'appelle Porte Design, qui a mis au point donc GoLED, LED évidemment. C'est un sac à dos donc qui est équipé de clignotants qui sont capables d'expliquer dans quel sens vous allez. Et c'était comment contrôlé par une télécommande sans fil qui peut être fixée sur le cadre du vélo, donc sur le guidon ou dans la poche de la bretelle du sac à dos. Voilà. Et alors c'est un sac qui par ailleurs est quand même fait pour emporter des choses et qui peut contenir jusqu'à 35 litres de contenant et qui pèse seulement 1 kilo. Voilà.
Pas mal.
Donc ça, c'était le premier gadget.
Le premier gadget. Attendez, parce que c'est bien votre sac à dos clignotant, mais je suis sûr que vous avez encore mieux. Vous pouvez donner mieux, plus encore.
Oui, le four intelligent.
Ah, le voilà.
Alors, il s'appelle June. Ouais, je vous avais à peu près tout fait intelligent.
C'est vrai.
On n'a pas fait la choucroute intelligente encore, mais on fait le four intelligent. Honneur à la choucroute.
Parce qu'elle-même, par essence,
intelligente. On n'a même pas besoin de l'expliquer.
Donc, en fait, c'est très simple. C'est un four qui est bardé de capteurs et qui est capable de régler la température de cuisson des aliments que vous introduisez dedans en reconnaissant ces animaux. Ces animaux.
Oui, c'est animaux,
c'est souvent. Les morts. Hein.
Il y a des animaux.
Là, il faut qu'ils soient morts, parce qu'autrement, c'est pas bon.
Des carottes, des navets, tout ça.
Voilà. Et donc, si, mais vous pouvez être végétarien aussi. Oui. Mais justement, le four peut vous donner des conseils en vous disant ajouter du sel, du beurre, voire éventuellement vous proposer des recettes. Donc c'est très simple. En fait, le four est équipé de caméras vidéo qui examinent la nourriture, qui la reconnaissent. Donc ils ont la capacité de lorsque si vous mettez par exemple un filet de saumon pour revenir dans les animaux, le four va être capable de le peser, de régler pour vous la température.
Et il va détecter que c'est du saumon.
Ah, complètement.
Sans que je lui dise.
Non.
Il va pas confondre avec du poulet ou avec un steak.
Ah ben, non. L'odeur est quand même assez spécifique.
Quand il marche bien, il va pas confondre. Voilà.
D'accord.
Alors ça existe, hein, là, c'est pas un gadgetto expérimental. Là,
voilà, c'est pas du concept.
Voilà, comme d'ailleurs le sac à dos, hein, qui existe aussi. Mais donc, ça coûte quand même un petit peu cher pour l'instant. C'est un four à 1 500 $.
D'accord. June. Voilà, ça tombe bien, on est au mois de juin,
donc
tout va bien. Ils ont bien fait les gars,
hein.
Ils ont bien calculé leur coût. Eh bien voilà, Jean, Antoine, j'aime bien la dernière hein, quand même.
Oui, oui.
Le four intelligent, ça c'est pas mal du tout.
Ah oui, c'est tentant ça.
Bon, messieurs, on revient dans un instant, la suite de cet atelier, ce sera avec notre enquête, bien évidemment. Et puis, donc à tout de suite, on est là dans quelques secondes.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno chaque samedi 16-18. Dans un instant, Jean de Chambure sera là à nos côtés. On va parler de marketing affinitaire avec nos invités pour notre enquête de l'atelier. Mais dans l'immédiat, c'est notre focus startup. Et notre focus startup de ce samedi, c'est avec vous, Lila Megraoua.
Oui, François. Alors cette semaine, on va plutôt faire un tour au Bell Labs. Pour en parler, j'ai à mes côtés Jean-Luc Bella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des Bell Labs France au sein de d'Alcatel Lucent. Est-ce que vous pourriez présenter un peu le on va pas dire concept, mais l'idée des Bell Labs?
Alors les Bell Labs, c'est d'ailleurs une structure de référence historique dans tout ce qui est recherche de la communication, qui a une présence importante aux États-Unis pendant tout le XXe siècle. Donc, l'invention du transistor, l'invention des cellules solaires, la découverte du Big Bang. Donc, il y a eu 8 prix Nobel qui ont été des chercheurs des Bell Labs. Donc, évidemment, avec le temps, la structure s'est transformée. Maintenant, l'organisation Bell Labs est devenue globale, avec des sites, bien sûr, aux États-Unis. Mais en France, c'est le deuxième site de l'organisation des Bell Labs, en Allemagne, en Belgique, en Irlande, en Chine, et puis des antennes un peu partout. Et donc, c'est le cœur, en fait, de la recherche un peu amont, fondamentale, pour Alcatel-Lucent. Donc, on se donne des défis qui sont, je dirais, importants, supérieurs à ce qui est attendu dans l'évolution à court terme. Comment augmenter d'une manière, mettre un facteur 10 sur la bande passante, augmenter la latence, c'est-à-dire le temps de réaction sur une application. Donc, voilà, ce sont tous les enjeux qu'on adresse au sein des Bell Labs.
Aujourd'hui, les Bell Labs, c'est combien de centres à travers le monde?
Donc il y a, comme je disais, il y a 6-7 centres qui sont des centres principaux, puis on a des antennes qui sont des petites équipes, comme en Californie, à Tel Aviv, en Israël, à Cambridge. La culture des Bell Labs, c'est d'attirer les meilleurs chercheurs. Donc au XXe siècle, ils allaient aux États-Unis. Maintenant, les meilleurs chercheurs veulent forcément aller aux États-Unis. Donc on symbiose là où on est. Par exemple, sur le site français, il y a presque 20 nationalités différentes, donc ils viennent de partout dans le monde. Et ici, en France, à Villarceau, on fait des recherches sur les nouveaux composants optiques photoniques. On fait des recherches sur la transmission optique, les câbles sous-marins, les câbles terrestres, les autoroutes de l'information, comme on dit. On fait des recherches aussi sur la transformation du protocole IP, qui est le protocole qui permet en fait toute l'interaction des nouveaux services, aujourd'hui du web, de l'internet, mais demain de la ville intelligente, de la route intelligente.
Alors les Bell Labs de Villarceau font partie d'un plus grand ensemble, la cité de l'innovation. Vous avez également le garage qui est, si je ne me trompe, qui permet aux startups d'être en résidence chez vous. Est-ce qu'il y a des liens, des relations entre le garage et les équipes des Bell Labs?
En fait, c'est l'Innovation City qui est ici à Villarceau. On a rassemblé beaucoup de personnel de recherche et de développement, et au-delà de ça d'ailleurs, sur ce site, il y a plus de 5000 personnes. Et donc, pour en faire une grande cité de l'innovation, qui est donc en interaction forte avec son environnement, notamment tout le plateau Paris-Saclay, avec l'Université Paris-Saclay en construction. Et à l'intérieur de ce site, ce qui est très important, c'est de casser les silos pour que les gens, toute cette richesse, finalement, produisent plus que ce qui est fait dans chaque ligne de produit. Et donc, le garage a cette mission-là aussi, c'est en fait de développer les initiatives à l'intérieur de l'entreprise, sur la base de ce que chaque personne, les ingénieurs, les techniciens, les personnels d'Alcatel-Lucent, les idées qu'ils ont. Donc, on leur facilite ça en interaction avec les Bell Labs et en interaction aussi avec le milieu extérieur, puisqu'on accueille des startups en résidence, comme on dit, qui profitent de la proximité des Bell Labs, qui a beaucoup de valeur, et profitent aussi de la proximité avec tout un tas d'équipements nouveaux pour lesquels ils pourront préparer les services à mettre en œuvre avec ces équipements nouveaux avant qu'ils soient accessibles au grand public. Donc ça a beaucoup de valeur et donc on a ce mécanisme-là.
Jean-Luc Bella, merci. Je rappelle, vous êtes président des Bell Labs France au sein d'Alcatel-Lucent. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup Lila. Et place donc à notre enquête de l'atelier. On va parler de marketing affinitaire ce samedi après-midi, Jean de Chambure, en compagnie de nos invités.
Oui, François, voilà un sujet qu'on adore dans le digital, dans le numérique, parce que c'est, j'allais dire, c'est presque une tarte à la crème, mais au fond, on en parle, et on voit pas toujours comment ça se construit. Et on a le plaisir d'avoir avec nous deux artisans, quelque part, du marketing affinitaire, qu'on est très heureux d'accueillir. Je vous les présente tout de suite. Philippe Aitiaya, si je n'écorche pas. C'est bien, Philippe.
C'est parfait.
Jean, on sent que vous avez répété plusieurs fois quand même, même si je puis me permettre.
Avec un beau prénom et un beau nom comme ça, il faut répéter, évidemment. Donc, Philippe, vous êtes le PDG de Synomia, une boîte hyper intéressante dans le marketing affinitaire. Vous allez expliquer dans un instant comment est-ce que ça fonctionne. Et juste à côté de vous, Philippe, Guilhem Fouettillou.
Bonjour.
Hein, bonjour, Guilhem. Et vous êtes le cofondateur de Linkfluence, une boîte aussi très active dans le marketing affinitaire. Alors, marketing affinitaire, François, c'est en gros, voilà.
Allez, faites-nous une définition, Jean.
Non, mais super simple. Le digital, le numérique est partout, donc la segmentation n'a plus beaucoup de sens. Il faut réfléchir plutôt avec des percées dans les usages, dans les comportements, dans les communautés, dans les passions, pour extraire des données de personnes qui sont potentiellement plus intéressés par votre proposition X ou Y, parce que vous les adressez avec un sujet de conversation qui leur plaît, quoi. Hein. Bon, j'essaie de le vulgariser le plus possible. Je sais pas si Guilhem et Philippe, ça vous va à peu près.
C'est très bien.
C'est à peu près clair.
Parfait.
Bon. Et alors, à partir de ça, il faut évidemment, une fois qu'on a cette idée de creuser les données, il faut réussir à avoir des entreprises qui nous aident à faire ça. Et justement, on en a deux en studio, François. Imaginez, on lance une start-up, on va vendre des boules de pétanque sur Internet, parce que c'est l'été qu'on a, envie de faire ça.
Sûr.
Je prends un exemple, un cas d'école, peut-être que vous avez au but comme client, je ne sais pas, messieurs, vous me direz pas.
Bon,
en tout
ça
cas.
Coûte cher en frais de port, en revanche.
Ça coûte
parce que c'est lourd.
Oui,
boules.
Oui. Voilà. Et il y a plein de façons d'adresser ces passionnés. Alors, pour commencer, je propose que, Philippe, pour Synomia, vous nous expliquez un peu votre proposition de valeur dans le marketing affinitaire. Comment est-ce que ça marche, Synomia, quand on veut faire du marketing affinitaire?
Eh bien, disons qu'on s'appuie sur un credo qui est extrêmement fort pour pouvoir aujourd'hui proposer aux entreprises de déployer des stratégies marketing, des stratégies de communication, mais également des stratégies qui seront partagées entre différents départements de l'entreprise. On doit se poser une question qui est en effet universelle, qui est éternelle. Est-ce qu'on va être en mesure de développer et de proposer des offres qui vont réellement satisfaire les attentes des publics au sens large? Est-ce qu'elles vont vraiment satisfaire la demande? Le marketing affinitaire que vous avez très bien défini tout à l'heure, qui s'appelait auparavant le marketing tribal, enfin qui a changé nom plusieurs fois au cours des dernières années, c'est finalement la possibilité aujourd'hui qu'ont les marques. Alors vous citez au but, elles sont très nombreuses et elles sont, quels que soient les secteurs d'activité, elles sont toutes concernées par cette question. Et elles ont la possibilité aujourd'hui d'identifier, de repérer au travers de ce qu'on appelle, nous, des data conversationnelles. Donc, c'est notre matière première, celle sur laquelle nous travaillons, des sujets, des centres d'intérêt qui sont partagés par des groupes au-delà, en effet, de certains segments traditionnels comme le genre, les catégories CSP, pourquoi pas une région géographique d'appartenance, etc.
On peut avoir un exemple bien précis pour qu'on comprenne?
Oui. Si vous êtes, par exemple, un acteur du photovoltaïque, alors on a parlé des pétanques, et que vous cherchez à identifier, à repérer des clients potentiels qui sont intéressés par la capacité à installer sur leur toiture, par exemple, un système photovoltaïque pour produire leur propre énergie, potentiellement également la revendre, eh bien, vous pouvez aujourd'hui travailler en amont l'identification des sujets, des centres d'intérêt qui marquent véritablement les cibles de ces mêmes entreprises. Dit autrement, est-ce que je suis plutôt intéressé par l'énergie verte ou est-ce que je fais partie d'une communauté qui, au contraire, s'intéresse à des données véritablement économiques, donc le prix de ma facture d'énergie qui ne cesse d'augmenter? Est-ce que je suis quelqu'un qui s'intéresse d'abord et avant tout à des considérations d'ordre fiscal? La liste pourrait être relativement longue, mais
ça, c'est, on voit bien, effectivement, avec les panneaux photovoltaïques, c'est est-ce qu'on est fondamentalement hyper écolo, est-ce qu'on est surtout
on veut faire des économies
dans l'optimisation de son budget,
ou est-ce qu'on veut moins payer d'impôts, c'est ça.
Et alors, vous, typiquement, pour revenir à votre proposition de Synomia, Philippe, ça permet quoi de coupler des données à la fois macro-éco, dédié à des communautés sur des forums. Enfin, comment ça marche un peu le moteur Synomia?
Alors, le principe, c'est de pouvoir comprendre la demande là où elle se trouve, pouvoir la capter, puisque cette demande, c'est évidemment digitalisée.
Oui.
Donc, il faut pouvoir repérer les carrefours d'audience, les lieux où cette demande s'exprime. Alors, on utilise pour cela des technologies, parce que c'est une nécessité. Guilhem vous le dira très bien lui-même juste après. Une nécessité technologique aujourd'hui pour pouvoir aller repérer, identifier ces conversations, pouvoir les extraire et ensuite pouvoir les segmenter selon ces fameux centres dont on parle, afin de proposer à la marque ces bonnes stratégies d'acquisition.
Segmenter, repérer les conversations. Et du coup, vous, Guilhem, donc avec Linkfluence, vous faites quoi en complément? Parce que vous êtes assez complémentaires, en fait, l'un et l'autre sur ce sujet.
Et on est assez complémentaires. On va justement intervenir au moment de ces données-là. Linkfluence, en fait, ce que l'on fait, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Linkfluence, c'est l'influence et dans le lien. C'est une entreprise qui a 10 ans, quasiment, aujourd'hui, qui est née au début du web 2.0, des blogs. Et on a commencé, en fait, par cartographier le web. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la façon dont les sites, les blogs, les forums, les médias, les réseaux sociaux. Alors, à l'époque, pas beaucoup, fin 2006, c'était encore très jeune, mais c'est intéressant comme point. Comment est-ce qu'ils étaient interconnectés? Parce que si vous êtes capable de regarder justement comment les sites se connectent les uns aux autres, vous êtes capable de comprendre comment l'influence se construit et comment les messages se diffusent. Donc aujourd'hui, nous chez Linkfluence, en fait, on développe des technologies, on développe un outil qui s'appelle Radarly, qui permet en fait de capter, d'analyser en temps réel, à la microseconde, plus de 300 millions de sources dans le monde entier, des blogs, des forums, sur Twitter, sur Facebook, tous les réseaux sociaux, que ce soit en Chine, en Russie ou en Europe, et de capter l'ensemble de cette information, et surtout, au-delà de savoir qui parle et de quoi il parle, est-ce que c'est positif, négatif, est-ce qu'on parle de ma marque, de mes produits, comment ça se diffuse? Comment, justement, ces affinités passent de point en point, de lieu en lieu, et comment est-ce qu'au final cela va impacter, va influencer nos audiences, nos auditeurs? Et c'est pour ça qu'effectivement, ce marketing affinitaire, nous, depuis le début, on travaille sur ces communautés qu'on appelle des communautés socio-affinitaires, justement, et qui sont le prolongement, qui sont la révolution qui vient véritablement changer la donne du marketing, en donnant une définition du consommateur qui ne soit plus descendante, avec ses segments sociodémographiques purement statistiques, mais qui soit émergente, qui vienne de la base.
Le big data, ce traitement des données dont on parle tout le temps, ce cloud, tout ça. Est-ce que ça vous aide aujourd'hui, concrètement, l'un et l'autre, et est-ce que c'est mieux traité par les entreprises qui vous consultent?
Je pense qu'il y a une promesse des big data qui est encore à réaliser, qui n'est pas pleinement réalisée. C'est ça qui est passionnant, c'est que aujourd'hui, on exploite peut-être 5%, 10% de la possibilité du potentiel des big data. Mais déjà, ce 5%, ce 10%, c'est un gain monstrueux et ça permet d'ouvrir des nouveaux territoires, des nouvelles opportunités. Nous, on ne cesse de travailler sur, déjà, notre spécialité chez Linkfluence, c'est les données qui viennent du web social. Ce n'est pas toute la donnée du web. C'est pas les données privées, c'est pas les données de navigation.
Ça représente quoi, par exemple, à peu près? En gros, les données du web social par rapport à toutes les données du web.
Pour avoir un ordre d'idée, rien que pour nos 300 clients, on capte et on analyse par jour 110 millions de contenus, 110 millions d'articles, d'images, de vidéos. 110 millions qui doivent être chacune en moins de 10 millisecondes analysées pour savoir ce qui est dit dans l'article, qui a parlé et comment ça s'est diffusé. Et nous, on ne s'intéresse effectivement qu'à cette partie qui est déjà immense.
Mais comment vous faites ça? Vous avez quoi? Vous allez choper des mots-clés comme ça dans les textes? C'est
Alors, effectivement, ce sont des moteurs à la fois sémantiques, mais aussi des moteurs d'analyse iconographique. C'est une des grosses innovations qu'on va lancer en 2015. C'est à la fois être capable de repérer des mots qui vont définir un champ sémantique, qui vont définir une marque, des produits, des catégories de produits, mais aussi
positif ou négatif.
Positif, négatif, mais aussi des choses beaucoup plus fines, parce que le positif, négatif, ça a été aussi un peu tarte à la crème. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Comment est-ce qu'on parle d'un produit, par quelle dimension, enfin, les attributs de marque vont être travaillés de façon beaucoup plus segmentée et précise que simplement positif, négatif. Et donc, on récupère toutes ces données-là, et ensuite, avec des mots-clés, comme je vous disais, aussi par l'image.
C'est-à-dire que par l'image.
Par l'image, c'est-à-dire être capable de repérer.
Qu'est-ce qu'il y a comme technologie derrière? Parce que par l'image, ça peut être compliqué.
Voilà, on travaille sur des programmes de recherche avec le CEA, par exemple, vous voyez. D'accord. Donc, on a la chance d'avoir une école mathématique en France qui est parmi, voire la meilleure du monde,
absolument.
Évidemment. Et on a donc cette chance-là de pouvoir travailler avec des ingénieurs.
Ça veut dire qu'on va pouvoir aller jusque, je sais pas, moi, des photos de brosse à dents dans l'image, on va reconnaître ça.
Mais là, vous touchez du doigt quelque chose de très important, c'est que notre marché, et je pense que Synomia est vraiment là-dessus aussi, on a commencé par le brand monitoring et la e-réputation. Les marques ne s'intéressaient qu'à elles-mêmes. Qui parle de moi?
C'est vrai que c'était en fait, assez narcissique.
C'était très narcissique. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on voit des nouveaux acteurs qui arrivent et qui disent, c'est bien, mais l'enjeu ultime de ce métier-là, c'est le marketing. Et l'enjeu ultime du marketing, c'est quoi? C'est la connaissance client, c'est la compréhension du consommateur. Aujourd'hui, chez Linkfluence, chez Synomia, on n'écoute plus uniquement ce qui se dit sur les marques, on écoute ce que disent les consommateurs.
Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on s'intéresse à tout ce qui est produit. Alors, vous évoquez les big data, tout ce qui est produit par le web social et le web en général. Ce que les entreprises finissent par oublier elles-mêmes, c'est qu'elles disposent déjà de données en quantité extrêmement importante qui ne demandent qu'à être analysées. Je vais vous donner trois exemples. Des baromètres de satisfaction. Lorsque une entreprise interroge régulièrement ses consommateurs, consommatrices sur des parcours d'achat, des parcours digitaux, etc., etc., eh bien, des données conversationnelles sont produites qui, si elles sont analysées avec les bonnes technologies, hein, Guilhem a raison de le citer, de notre côté, c'est le CNRS hein, qui a contribué à la création de Synomia, eh bien, on est en mesure de pouvoir replonger des données conversationnelles dans des données transactionnelles et de pouvoir travailler vraiment ce qu'on appelle l'expérience client.
Écoutez, c'est vraiment passionnant. On rêve là de savoir encore un peu plus peut-être dans la recherche des images. Vous nous donnerez des exemples la prochaine fois. Merci en tout cas à tous les deux. C'est passionnant, le marketing affinitaire évidemment. Donc Guilhem Fautillou, cofondateur de Linkfluence, et avec nous aussi Philippe Aitiaya, si je n'ai pas écorché, c'est bon. Je suis content, ça va. Vous avez vu, François?
Non, mais Jean,
progresse, hein, année après année.
Depuis toutes ces années d'émission en émission, on sent la progression qui est là, il n'y a pas de souci.
Hein. Oui. Donc, Philippe, PDG de Synomia. Merci à tous les deux.
Merci. C'est vrai que passionnant, hein, le marketing affinitaire. On revient dans un instant. La suite de cet atelier, ça sera notre web stratégie, bien entendu. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
Un robot hôtesse qui vous accueille dans un hôtel. Et pourquoi pas demain des robots qui feraient le ménage dans votre chambre lorsque vous partez. C'est l'un des sujets qu'on va évoquer dans quelques instants. Notre passion, selon Sanet, l'intelligence artificielle et les robots arrivent dans le secteur du tourisme. Ce sera avec Aurore Géraud et nos invités. Mais auparavant, notre web stratégie. Et cette semaine, c'est la stratégie digitale du groupe Chantel que nous allons découvrir avec vous, Lila Megraoua.
Oui, François. Alors, cette semaine, pour cette web stratégie, on va parler de la stratégie digitale et transformation numérique du groupe Chantel. Pour en parler, j'ai à mes côtés Guillaume Kretz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur digital du groupe Chantel. Le groupe Chantel, c'est une entreprise de lingerie féminine, c'est ça ?
Exactement. Le groupe Chantel est le leader de la lingerie féminine française avec un certain nombre de marques et enseignes, les plus connues étant Chantel, Passionata, Chantal Thomas, nos réseaux Darjeeling et Orcanta en France, mais également des réseaux à l'international avec le réseau Livera, qui est un des principaux réseaux de distribution en Hollande, et le réseau Femilette au Danemark également.
Quand et comment le groupe a amorcé, a commencé à réfléchir sur le digital ?
Je pense que le virage digital, ça a été en premier lieu une histoire d'humilité. Comme beaucoup d'entreprises retail, il a fallu accepter qu'il fallait réapprendre son métier une nouvelle fois. Il y a déjà eu beaucoup de virages ces dernières années, mais ce virage digital, c'était un virage particulièrement fort. Et pour apprendre, ça implique de trouver des solutions nouvelles. Le groupe Chantel a trouvé une solution nouvelle en s'associant avec une start-up basée à Berlin et qui avait constitué une équipe de développeurs, de designers, de gestionnaires de projets et qui avait lancé un site multimarque, un pure player sur le marché allemand de lingerie féminine. Et aujourd'hui, cette équipe est le Digital Lab du groupe Chantel et accompagne chacune des équipes commerciales et marketing dans leur transition digitale. Ça s'est fait via le biais d'une acquisition de start-up, mais ça s'est également fait via la collaboration avec des start-up. Donc aujourd'hui, le groupe Chantel fait partie du programme Innove and Connect de la BNP et collabore, parraine une start-up qui s'appelle Go&To. Par le biais de ce type de partenariat, il y a un échange très fructueux qui existe à la fois pour la start-up et pour l'ETI, l'entreprise de taille intermédiaire, qui permet à la fois de développer des produits innovants pour l'entreprise de taille intermédiaire et pour la start-up de s'éduquer sur les problématiques retail et les problématiques marketing du groupe Chantel.
Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner la cliente dans son achat online ?
On s'est reposé sur notre force au sein du groupe Chantel, qui est la qualité de nos produits et la connaissance de nos produits. Notre objectif, qui n'est pas encore complètement en place aujourd'hui sur nos plateformes, c'est de libérer l'ensemble de cette connaissance produit qui existe en interne et la transmettre sur nos plateformes. Toutes nos vendeuses, nos designers, nos responsables marketing, elles ont une passion pour le produit. Et cette passion, on souhaite qu'elle soit ressentie sur nos plateformes web et que il y ait une richesse dans le contenu, un contenu qui soit authentique. Mais on a également mis en place une facilité avec nos boutiques, comme beaucoup de retailers. Là, c'est là où on se rejoint avec le prêt-à-porter. Aujourd'hui, sur nos réseaux Orkanta et nos réseaux Darjeeling, il est possible de se faire livrer en boutique, de réserver un produit directement au sein de la boutique, et la cliente est attendue, accueillie dans la boutique pour l'aider dans son choix de produit.
De ce que vous observez sur vos plateformes de vente, est-ce que vous êtes capable de quantifier la proportion des internautes, des clientes internautes qui vont utiliser la plateforme d'e-commerce pour s'informer, pour se renseigner d'un prix avant de passer en magasin? Quelle proportion en fait transforme?
Alors aujourd'hui, nos plateformes Orkanta et Darjeeling sont un vrai outil pour la cliente, à la fois pour préparer son achat en boutique. La cliente réserve les produits qui l'intéressent directement dans la boutique. C'est également un outil dans la boutique, récolter plus d'informations qui ne sont peut-être pas disponibles directement dans la boutique, ou si la cliente ne souhaite pas échanger avec la vendeuse. Et puis c'est également un outil après la vente pour récolter des informations complémentaires sur le produit et tout le service après-vente également.
Et sur les réseaux sociaux, c'est une même vision, d'abord informer.
Alors oui, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est la communauté de nos clientes. Notre souhait, c'est de continuer à se rapprocher d'eux. Historiquement, les marques du groupe Chantel sont des marques relativement silencieuses. Notre principale force, ce sont nos produits, ils parlent pour eux. Mais on souhaite également pouvoir échanger avec nos clients. L'objectif, c'est d'abord de libérer l'ensemble de nos connaissances produits en interne pour engager la conversation avec nos clientes et évidemment via les réseaux sociaux.
Vous parliez de la difficulté tout particulièrement avec la lingerie féminine de trouver sa taille exacte et du coup de se risquer à acheter en ligne. On parle beaucoup de textiles intelligents, connectés. Dans vos rêves les plus fous, est-ce que ça pourrait être une piste pour pallier à ça?
Alors je suis tout à fait prêt au rêve, je l'encourage fortement. Je pense que la première étape de ce rêve, c'est de montrer et capturer notre connaissance produit avant de pouvoir rêver à des outils qui permettront de deviner la bonne taille ou deviner le bon produit pour une femme. Il faut savoir également, au sein du groupe, capturer l'ensemble de cette connaissance produit. Beaucoup de startups se sont lancées, notamment aux États-Unis, essayant de développer des algorithmes, des applications, accompagnant la femme vers le choix du bon produit. Jusqu'à présent, elles n'ont pas réussi. Et une des raisons, c'est que il y a une partie du choix du produit qui peut être assez systématique, mais une partie également qui est émotionnelle. Le produit doit bien aller, mais c'est la cliente qui doit décider si le produit lui va bien. Et donc cette partie émotionnelle se transmet uniquement par la collectivité des opinions. Donc c'est vraiment l'ensemble de nos vendeuses, de nos responsables de design, de marketing, qui pourront donner leur opinion, qui seront pas forcément les mêmes, même en interne sur les produits, puis à la cliente de se nourrir de l'ensemble de ses opinions et de faire son choix sur Internet. Dans mes rêves les plus fous, je pense qu'avec l'ensemble de ces opinions-là, et avec des fonctionnalités un peu plus avancées, la cliente arrivera à faire un choix autonome qui sera le bon. Et on verra des taux de retour qui seront plus faibles lorsque la cliente commandera chez elle. Elle aura eu suffisamment d'informations, des photos de suffisamment bonne qualité pour choisir directement le produit qui lui conviendra.
Est-ce que toutes ces connaissances, est-ce que d'ailleurs c'est pas déjà le cas, ne sont pas transmises aux vendeuses en magasin? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un accueil à la fois digitalisé en point de vente, enrichi de toutes ces connaissances et cet historique en magasin?
C'est sûr. Notre plus grande force, ce sont nos responsables de vente, notamment au sein de nos réseaux, qui sont là depuis des années, qui sont passionnés par le produit, qui connaissent les femmes et qui ont une vraie volonté de les aider dans leur choix de produits. Et ce sont ces gens-là qu'on souhaite mettre en avant sur le digital et utiliser leurs connaissances pour développer des fonctionnalités qui aideront les femmes à faire leur choix. Mais ce sont les consommatrices qui devront faire le choix et pas un algorithme.
Guillaume Kretz, merci. Je rappelle, vous êtes directeur digital du groupe Chantel. Merci beaucoup.
Lila, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier. On va parler d'innovation dans le tourisme avec Aurore et nos invités. À tout de suite.